Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec à la une ce matin un pays, une nation à l'occasion d'élections législatives très importantes aujourd'hui, Israël. Israël, l'une des nations les plus en pointe sur la science et la haute technologie. Un pays qui envoie une première sonde sur la Lune. Un pays où, au-delà des caricatures et des préjugés, arabes et juifs travaillent ensemble à l'hôpital, à l'école ou dans la police. Israël qui est essentiel dans l'équilibre géopolitique du Proche-Orient et parfois trop limité au dans l'image à ceux qui le gouvernent. Voilà pourquoi on lui consacre 1 heure ce matin avec toutes vos questions à l'avenant. Le standard est ouvert, ma chère Julie.
Le standard, c'est le 39-21, 50 centimes la minute. Et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1. Bonjour Wendy.
Et puis, deuxième sujet, on va s'intéresser aux voyants et aux médiums ce matin. Pas un week-end sans un salon dédié aux arts divinatoires, souvent associé au bien-être. D'ailleurs, c'est intéressant. Comment ces hommes et ces femmes, à votre écoute, peuvent vous aider, vous guérir, vous apaiser? Et comment reconnaître les vraies âmes des charlatans? Est-ce que vous avez déjà eu recours d'ailleurs à un voyant dans votre vie? On vous écoutera là encore. C'est le sommaire du tour de la question jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec deux hommes qui connaissent bien ce pays, Israël, essayiste et géopolitologue français, Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui republiez Atlas géopolitique d'Israël, des défis d'une démocratie en guerre aux éditions Autrement. Et à nos côtés également, Serge Moati. Serge Moati, bonjour, journaliste, documentariste bonjour. Français, vous publiez il y a quelques semaines, Il était une fois en Israël, aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous, messieurs, parce qu'il fait peut-être 26 degrés en ce moment à Tel Aviv, mais le climat est beaucoup plus fébrile avec la tentation d'un vote sécuritaire. Pour dire les choses très clairement, Frédéric Ancel, nous avons un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui convoque des élections de manière anticipée et qui brigue un cinquième mandat. D'abord, expliquez-nous un petit peu le contexte dans lequel ces élections ont lieu aujourd'hui pour 6 millions d'Israéliens.
Alors, c'est un contexte géopolitique qui est très favorable à Israël, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'abord parce que le monde arabe, d'un point de vue géopolitique, est très effondré, très divisé, qu'il n'y a pas beaucoup d'attentats ces dernières années. Donc là, la dimension sécuritaire est relativement convenable, en tout cas par rapport aux années 90 ou 2000, par exemple. L'économie va bien, et même en réalité très bien pour l'État d'Israël. Alors, pourquoi des élections anticipés? Eh bien parce que Netanyahou est poursuivi par un certain nombre de... Enfin, il précède un certain nombre de casseroles et est poursuivi par des enquêtes policières qui vont devenir des enquêtes judiciaires.
Pour corruption?
Oui, c'est ça. Alors vous avez toute une série de chefs d'inculpation et que sa majorité, du coup, était devenue extrêmement faible depuis que Lieberman, le ministre de la Défense, le chef d'un parti russophone d'extrême droite, avait quitté le gouvernement. Donc, sa majorité était extrêmement fragile. Lui-même, personnellement, était très fragilisé. Et il a décidé, c'est pas la première fois d'ailleurs dans sa longue carrière politique, de renverser la table en quelque sorte, jouant sur tout ça, tout ce qui marche bien en Israël, et jouant, je l'ajoute, c'est très important, le rôle et le jeu du monsieur sécurité. Vous l'avez très bien dit dans votre introduction, les Israéliens sont absolument arc-boutés sur la fameuse bitachon, c'est-à-dire la sécurité. Et Netanyahou leur dit, écoutez, ça fait 10 ans que je suis là, d'ailleurs j'avais déjà été Premier ministre de 96 à 99, avec moi, il n'y a pas de guerre, en tout cas, il n'y a pas de guerre de haute intensité. Je vous ai protégé de l'Iran, je vous ai protégé des pressions d'Obama. Regardez à quel point Trump, Bolsonaro, Poutine également, de près ou de loin, me soutiennent.
Ils soutiennent aussi, oui.
C'est ça.
Et
regardez à quel point, avec moi, vous êtes protégé. Donc, quelle que soit l'opinion que vous avez personnellement de moi-même, continuez de voter pour quelqu'un d'expérience, à savoir Bibi Netanyahu.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'environnement local et régional. Le problème de M. Netanyahou, Serge Moati, c'est que finalement, on l'associe, vu de France, mais même vu de l'étranger, on l'associe un peu trop à Israël et au peuple israélien. C'est-à-dire que quand on rejette aussi Israël, c'est qu'on rejette parfois la politique du Premier ministre, alors que nous avons aussi une population qui peut être un peu captive de cette politique-là. Cela dit, Frédéric Ancel a raison, il joue aussi sur les 10 ans gagnés. 10 ans de rebond économique, 10 ans de bon bilan pour Benjamin Netanyahou.
10 ans de bon bilan, mais 10 ans d'impasse aussi. Parce que où ça mène tout ça? Il y a quand même un Israélien sur 5 qui souffre de pauvreté.
de la pauvreté, malgré un PIB en croissance, malgré le côté Startup Nation, etc.
Un chômage à 4%.
D'accord, un chômage à 4%, mais plein de pauvres. Plein de pauvres aussi. Et quoi ? Et comme seul objectif et comme seul rêve pour tout un peuple, pour toute une génération, la guerre éternelle et la guerre à outrance, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est pas possible. Et avec, comme en France, une disparition de la gauche, travailliste, pacifiste, en gros, enfin, pacifiste, voulant négocier, en tout cas avec les Palestiniens, négocier. C'est normal, négocier avec les gens qui sont autour de soi, qui sont des ennemis. On fait toujours la paix avec ses ennemis. Hein. Bon, c'est quand même un vieil adage, mais qui est vrai. Et donc, voilà. Donc, si c'est ça, Netanyahou, regardez, Frédéric a tout à fait raison de montrer qu'il, enfin, les amis de Netanyahou, les amis de Netanyahou, c'est une catastrophe mondiale. Trump, Bolsonaro, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, des amis comme ça, que Dieu m'en protège ? C'est terrible, enfin, c'est terrible. Trump qui décrète que le Golan sera israélien, comme ça. C'est lui qui décrète. Bon, alors voilà. Et on dit rien, on n'ose rien dire. C'est Trump, c'est Trump, c'est Trump. Bon, ou Bolsonaro qui vient et qui dit des choses épouvantables sur le mur des lamentations à Jérusalem. Donc, je veux dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Et l'image d'Israël se dégrade dans le monde entier.
À cause de cela, à cause de ces alliances aussi, à cause de cette politique très sécuritaire.
Dans le monde, en tout cas, qui m'intéresse, c'est-à-dire le monde européen et le monde.
Bien sûr. Et je vous raconterai justement le premier contact que vous avez eu avec cette belle terre d'Israël. Vous aviez 12 ans, vous arriviez de Tunisie. Dans une certaine mythe aussi, dans un certain mythe de l'État en création.
Hein, cette nation était toute jeune. C'était très différent.
Bah voilà. Et c'était un jeune pays, il faut le rappeler, 70 ans pour Israël, Frédéric Ancel, avec tous les paradoxes qui vont avec, à la fois une nation très très moderne et une nation qui se cherche aussi dans son identité et qui parfois fait confiance à des dirigeants qui peuvent l'entraîner dans une voie compliquée.
Oui, on a affaire à une polarisation ces dernières décennies en Israël. C'est-à-dire que les laïcs le sont de plus en plus et sont de plus en plus nombreux, mais de l'autre côté, les orthodoxes le sont également. De plus en plus orthodoxes et de plus en plus nombreux.
C'est-à-dire qu'il y a une montée de la religion
Mais des deux côtés, c'est-à-dire qu'à Tel Aviv, il y a encore, allez, 30 ans, vous ne trouviez pratiquement rien d'ouvert le vendredi soir, c'est-à-dire au début du sacro-saint Shabbat, même pour les laïcs. À Jérusalem, on ne sortait pas, on ne s'amusait pas lors du le jour du Shabbat. Et aujourd'hui, à Tel Aviv, tout est ouvert pratiquement en permanence et vous pouvez manger du cochon si vous en avez envie. En revanche, et de l'autre côté parallèlement, toute la partie nord de Jérusalem, lors des jours donc de fête ou du Shabbat, la partie nord est quasi intégralement contrôlée par les ultra-orthodoxes et la ville ne bouge plus du tout. Alors cette polarisation, elle est vraie sur le plan des mœurs, elle est vraie sur le plan politique. Regardez à quel point l'extrême droite en Israël a progressé alors qu'il y a encore 30-40 ans, elle n'existait pour ainsi dire, pratiquement pas. Mais regardez aussi à quel point une partie de la gauche s'est radicalisée et aujourd'hui, alors soit ne vote pas, soit quitte le pays, soit vote pour des formations qui sont des formations judéo-arabes favorables au démantèlement de l'État d'Israël au profit d'une grande Palestine dont rêvait Arafat Naguère. Donc cette polarisation, elle est vraie sur le plan politique, elle est vraie sur le plan social, sociétal, elle est vraie sur le plan des mœurs. Et malgré tout, et ce que dit Serge est vrai, on sent bien une pointe de nostalgie dans sa voix, la gauche israélienne, elle est réduite aujourd'hui à sa portion congrue parce qu'elle n'a rien à proposer. Pardon, hein, je le dis très objectivement. Les travaillistes sont au moins aussi libéraux dans leur programme que le Likoud. Donc les gens de faible, j'allais dire, de faible niveau social et économique dont parlait à juste titre tout à l'heure Serge, mais pour qui ils votent ? Mais figurez-vous qu'ils votent pour le Likoud. Ils votent pour Netanyahou. Ou en tout cas, ils votent pour le parti séfarade, orthodoxe, chasse, parce que ce sont des partis qui prétendent donner de l'identité, et notamment du nationalisme. Alors bien évidemment, on peut le regretter. Néanmoins, face à cela, les travaillistes sont d'autant plus faibles qu'ils n'ont plus d'épée. Et regardez à quel point Benny Gantz, donc le challenger de Netanyahou, et qui sera peut-être Premier ministre, je ne le crois pas, mais enfin, il sera peut-être Premier ministre à partir de demain, dans quelques semaines, lorsqu'il aura formé son gouvernement, il n'est pas travailliste. Il sort de l'armée, il était chef d'état-major, et les Israéliens, en tout cas beaucoup d'Israéliens, vont voter pour lui parce que c'est une épée. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les Israéliens veulent être protégés, même si l'État est très puissant objectivement, chaque Israélien, dans sa chair, continue d'avoir très peur. Et Netanyahou a beaucoup joué là-dessus, et Benny Gantz joue sur l'aura qui est celle d'un chef d'état-major. Alors que les travaillistes, eux, depuis Depuis Rabin, finalement, n'ont plus d'épée avec un E majuscule.
Petite nation Israël, mais 17e puissance mondiale entre l'Égypte, la Syrie, l'Iran, le Liban, dans une géostratégie implacable, évidemment. On parle de ces élections législatives, mais surtout, nous allons venir au côté très moderne de cette nation. Startup Nation, vous connaissez peut-être, si vous nous écoutez en voiture, l'application Waze, application aujourd'hui très courante en France, ce petit GPS qui a été créé en Israël, comme tant d'autres innovations. La science, évidemment, est porteuse aussi pour l'équilibre de ces 8 millions d'Israéliens. À tout de suite et jusqu'à 10h avec Serge Moati et Frédéric Ancel.
Jusqu'à 10h, coup de projecteur sur les élections législatives qui ont lieu aujourd'hui en Israël. Wendy Bouchard.
Israël, ce pays vous fascine peut-être, vous intrigue certainement, le connaissez-vous seulement? Dites-nous ce que vous inspire aussi sa situation géopolitique. On en parle avec Frédéric Ancel, essayiste et géopolitologue français, avec Serge Moati, journaliste et documentariste, auteur d'Il était une fois en Israël aux éditions Fayard. Et j'aimerais qu'on vous suive un peu justement dans votre première approche de ce pays. Vous êtes le petit gars de Tunis, Serge Moati, qui voit une partie de sa famille partir en Israël. Un nom qu'il vous est quasiment interdit d'employer sur une terre du Maghreb. C'est difficile de dire Israël à Tunis. Vous comprenez vite pourquoi ?
On fait gaffe. Non, je ne comprends pas bien, mais on me dit chut, 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 parle pas de ça, etc. Bon, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Enfin bon, il a fallu que je grandisse un peu pour comprendre pourquoi cet oncle, ses neveux, ses nièces, mes petits cousins, quoi, partaient vers un pays mystérieux. Mystérieux, il ne fallait pas en parler. Bon, d'accord.
Un pays qui est né deux ans après vous.
Ouais. Oui, moi je suis plus vieux qu'Israël.
Voilà.
Je suis plus vieux qu'Israël, ouais. C'est que j'ai toujours considéré Israël comme un petit frère.
Ben voilà.
Et donc, mais c'est vrai, hein, je veux dire, bon, et c'est vrai que j'ai adoré l'Israël des débuts, mais c'était un pays lointain et mystérieux. J'ai été élevé dans une famille non religieuse et non sioniste. Hein. Je ne connaissais pas aucune fête juive, aucun machin truc comme ça, etc. Et brusquement, voilà le tonton qui part là-bas. Mystérieux. Mais s'il part là-bas, ce n'est pas l'Israël de maintenant. Il part vers un Israël sioniste dès l'origine, c'est-à-dire plutôt laïque, où il y avait une sorte de yalta avec les religieux, vous savez, de séparation des pouvoirs. Mmh. Aux religieux, les fêtes civiles, les mariages, les bar mitzvahs, les communions, vous savez, les trucs comme ça, etc. Et aux laïcs, la politique.
D'accord.
Donc ce n'était pas du tout la chose. Égalité des droits absolue entre arabes, israéliens, chrétiens, juifs, chrétiens, etc. Enfin, égalité absolue dans la déclaration d'indépendance, 1948. Je m'en souviens très bien, j'avais 2 ans. Donc
vous
voyez... j'ai révisé, mais surtout, je suis allé beaucoup. Dès l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, mon oncle disait, en Israël, on sait traiter les orphelins, comme j'étais orphelin, j'avais perdu mon père et ma mère. On sait traiter les orphelins, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il voulait parler des orphelins de la Shoah.
Oui.
Mon père était déporté, effectivement, avait été déporté, mais il n'est pas mort, Dieu merci, en déportation, sinon je ne serais pas là pour en parler. Ça vous aurait manqué, je pense, ce matin. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, bon, bref... et là-bas, j'ai vu l'utopie fraternelle que représentaient les kibbutz.
Voilà, le kibbutz. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le kibbutz à l'époque déjà.
C'est un endroit où, sans salaire, sans rien, c'est comme ça, on travaille tous ensemble d'une manière tournante et d'une manière communautaire au bien-être de tous, c'est-à-dire des fermes agricoles ouvertes et vraiment qui reposent sur l'idée d'utopie et d'égalité. On peut dire socialisme, mais un socialisme, alors dans ce cas, extraordinairement libertaire. C'est-à-dire sans goulag, hein, du tout. Et donc, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, ce côté... on chantait, il y avait des petites filles en short qui montaient dans les arbres, comme ça, et qui étaient très sexy, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et vraiment, j'ai adoré ça. Et puis, quand tu es orphelin, c'est formidable, parce que, comme il y a des maisons d'enfants, tous les enfants dorment ensemble.
C'est ça.
Et puis, les parents des autres viennent te voir et te considèrent un peu comme un enfant à eux. Donc c'est vachement bien, quoi. C'était... Enfin, bon, vous voyez pourquoi
j'ai
aimé ça. Non, mais
là on sent le petit garçon, évidemment, qui parle et qui se souvient. Les kibbutz, aujourd'hui, n'existent plus.
Non.
Plus guère, ou alors sous une forme plus touristique, Frédéric Ancel. Hein, des kibbutz hôtels qui permettent un peu de voir ce qui c'était à l'époque, il y a 70 ans.
Alors, des endroits de repos pour les bobos de Tel Aviv.
Alors, les 230 kibbutzim existent toujours, mais ils ne sont plus collectivistes. C'est-à-dire que ce que dit Serge, et c'est assez émouvant, c'est qu'au fond, c'est la seule expérience marxiste collectiviste, démocratique et non violente de l'histoire. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le dernier kibboutz collectiviste, donc kibboutz originel, voilà. Oui, il a disparu en 2000. Donc depuis, effectivement, ce sont des villages qui sont beaucoup plus, on va dire, alors soit qui sont toujours bâtis autour de coopératives, soit qui font, qui produisent pas mal, oui, c'est vrai, de l'activité touristique.
Oui, oui, mais ce qui est formidable, par exemple, c'est qu'à l'occasion de ces élections législatives, j'ai regardé pas mal de reportages, on retourne à Tel Aviv, on retourne à Haïfa, surtout, où, préexistant d'ailleurs à la création d'Israël, donc avant 1948, on a une coexistence totale des religions. Les juifs, les arabes, les chrétiens vivent ensemble, travaillent ensemble, sont intégrés à cette société. On aimerait retrouver aussi cette société-là qui existe dans beaucoup d'endroits d'Israël, mais avec aujourd'hui une population arabe qui représente 20% de la population et qui ne se sent pas forcément incluse tout le temps, en tout cas dans la politique actuelle, Frédéric Ancel.
Alors, ce que vous appelez la population arabe d'Israël, c'est très composite. Vous avez une grande majorité de musulmans, mais parmi ces musulmans, vous avez des gens qui vivent en harmonie et en très bonne intelligence avec les juifs, les chrétiens et les druzes, par exemple dans la ville de Haïfa, qui est une ville de gauche d'ailleurs.
Oui.
Vous avez une petite minorité de chrétiens. Donc d'arabes chrétiens, vous avez environ 130 000 personnes, donc c'est un peu moins de 5% de la population arabophone d'Israël, qui vit aussi au nord, mais qui décroît parce que le niveau socio-éducatif de ces gens-là est très élevé. En général, ils partent à l'étranger où ils ont souvent de la famille, faire des études et ils ne reviennent pas. Vous avez les druzes, c'est un cas très particulier parce que les druzes ne sont pas considérés comme musulmans par les autres musulmans, eux se considèrent comme tels, mais ils sont d'abord druzes et ils font l'armée en Israël. Oui. Et ce sont des citoyens tout à fait exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de l'État, bien évidemment.
Tout le monde fait l'armée en Israël ?
Tout le monde fait l'armée chez les Juifs et les Druzes.
Ah.
Ouais. Après, si vous êtes musulman, vous pouvez demander à la faire. Il y a très peu qui le demandent. Si vous êtes chrétien, vous pouvez la faire aussi. Mm-hmm. Mais enfin, là, c'est sur demande. En revanche, les Druzes et les Juifs sont astreints.
Automatiquement.
Alors, mais après, quand vous parlez des années d'avant, la création d'Israël d'avant 48. Encore une fois, je reprends l'exemple de Haïfa et d'un certain nombre de coins en Galilée, donc essentiellement au nord du pays. Ça se passait pas forcément trop mal. Et en même temps, dès les années 1920, il y a eu des confrontations entre ces deux mouvements nationalistes concurrents, hein, le sionisme, le mouvement nationaliste juif, et le mouvement nationaliste arabo-palestinien derrière Jamil Husseini. Tandis qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait dire, il y a quand même une vraie cohabitation. D'ailleurs, vous le disiez dans votre introduction, une cohabitation qui ne ressemble pas à celle d'autres États du Moyen-Orient. C'est le moins qu'on puisse dire quand même. Hein. Donc avec tous ces travers, la démocratie israélienne aujourd'hui, c'est très objectif parce que sinon beaucoup d'Arabes partiraient de ce pays, vivent quand même globalement en bonne intelligence et sous des lois qui sont égalitaires. Aujourd'hui, tout le monde vote, quelle que soit sa religion et son origine.
Je vous ferai réagir d'ailleurs là-dessus, Serge Moati, parce que vous êtes peut-être nostalgique d'un âge d'or, mais il faut voir ce qui éventuellement fonctionne bien aujourd'hui, ce que vous voulez encore mettre en valeur dans cet Israël-là et les dysfonctionnements également de cette nation. Il était une fois en Israël, c'est votre ouvrage chez Fayard et on parle de ce pays à l'occasion des élections législatives. Je donnerai la parole à Jeff qui veut donner son sentiment sur la question aussi. Jusqu'à 10h, nous sommes ensemble, ma chère Julie.
Des élections législatives très importantes aujourd'hui en Israël. Un premier ministre Netanyahou qui brigue un cinquième mandat et l'occasion pour nous de faire le tour d'une nation. Tour d'une nation.
Qu'on appelle mal, en mauvais français, Startup Nation. Pourquoi ? Parce que c'est le pays aussi où les startups fleurissent le plus. Vous avez 8 millions d'habitants, vous avez 6000 startups, c'est assez impressionnant. Je parlais du développement aussi technologique de ce pays qui a envoyé une première sonde dans la Lune il y a quelques semaines avec beaucoup de fierté. Cette sonde s'appelle Bereshit, c'est Bereshit en hébreu, c'est le commencement. Ça a beaucoup
Dans la Bible,
de sens.
C'est le premier mot de la Bible.
Serge Moati.
Bereshit, il était une fois.
Ouais.
Il était une fois.
Voilà, ça vous résonne Bereshit. Avec le titre de votre ouvrage.
Certains peuvent l'affirmer. Oui.
Oui. Je vous laisse à votre bon soin. J'aimerais que vous conversiez, Serge Moati, Frédéric Ancel, avec Jeff qui nous appelle au 3921 depuis Vernouillet. Bonjour Jeff.
Bonjour Wendy.
Merci de vous intéresser à cette émission. Vous avez peut-être une question, une impression sur Israël dont nous parlons jusqu'à 10h.
Oui, moi, en fait, je voulais dire c'est que je trouve scandaleux que les médias, surtout là, je parle en France, les médias français, je pense certains pays occidentaux aussi, on parle d'Israël que des gens que les gens détestent. Je dis comme ça, pas tout le monde. Les gens comme les Benyamin Netanyahou et autres, que les gens qui cultivent la haine et les médias va toujours dans ce sens-là. Alors qu'il y a des gens en Israël comme Jonathan Shapira, ce sont des gens qui se battent pour l'humanisme, mais on n'en parle pas. Moi, dans le quartier, j'ai montré aux jeunes qui étaient un peu remontés contre Israël et tout, je leur ai montré les images, les films de Yonatan Shapira, ils ont changé l'image, ils ont vu autre chose.
Yonatan Shapira, vous pouvez nous éclairer, Jeff?
Yonatan Shapira, c'est un ancien officier militaire israélien.
D'accord.
Qui était un héros dans l'armée israélienne à l'époque. Mm-hmm. Et après, qui a changé et qui se bat pour la paix entre Israël et la Palestine et qui a fait la prison plusieurs fois parce qu'il se bat pour la paix. Mmh. J'ai montré les images de cet homme-là aux jeunes. Ils ont vu que l'Israël, c'est pas seulement que les gens qui veulent tuer les Palestiniens. Il y a aussi des gens qui se battent pour la paix.
Mais je suis d'accord avec vous, Jeff, et je pense que Serge Moati peut revenir là-dessus. C'est ce qu'on reproche souvent aux médias, d'ailleurs, d'avoir un regard totalement biaisé sur Israël. Et pourquoi ?
Ah ben ça, j'en sais rien. Alors ça, il faut leur demander.
Vous ressentez de la même manière.
Oui, bien sûr. Mais aussi, Bibi fait tout pour qu'on ait ce regard biaisé. Hein. Vraiment, si c'est ça que vous voulez dire, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais c'est peut-être ce qu'il entend, Jeff.
Mais je suis heureusement qu'il y a eu le témoignage de Jeff. C'est important. Je ne connais pas ce Jeff. Il est israélien, c'est ça ?
Vous êtes ? Je ne suis pas israélien.
Ah bon ?
Je suis africain. Je suis noir.
Ah d'accord. Mais il y a des Noirs en Israël.
Non, mais parce que oui, je sais qu'il y a des falachas qui sont israéliens.
Mais vous connaissez le pays, Jeff ? Vous connaissez ?
Non, je ne connais pas, mais je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde.
Bah,
et puis je vois la haine qu'il y a dans la société.
Mmh.
Et aussi, les médias ne travaillent pas pour essayer d'apaiser les choses. Mmh. Là, il y a un problème aussi dans les médias aujourd'hui.
Oui, mais...
Il faut chercher les diables et les gentils.
Ouais.
Donc, soit on est du côté des gentils et puis on monte d'un côté les diables.
Il y a peut-être une lecture.
Alors que le monde est beaucoup plus nuancé que ça.
C'est vrai. Jeff, vous avez raison. Il y a peut-être une lecture un peu manichéenne qu'on veut imposer pour rendre les choses plus compréhensibles et on se trompe et on fait plus mal qu'autre chose, Frédéric Ancel. On essaye de réparer aussi cela ce matin, d'ailleurs.
Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que pointe Jeff, c'est le prisme déformant d'un certain nombre de médias. Mais je peux vous dire que chez mes confrères à l'université, c'est vrai aussi, le prisme déformant, c'est celui de la géopolitique hardcore, c'est-à-dire de la guerre. Mmh. On a vraiment l'impression que les Israéliens, quels qu'ils soient, se réveillent le matin un couteau entre les dents en se disant comment on va régler la question palestinienne et je vais penser qu'à ça toute la journée. Mmh. Et d'ailleurs, on pense la même chose des Palestiniens, ce qui est faux. On a affaire à deux sociétés qui d'abord sont extrêmement imbriquées, d'une part, d'autre part composées de gens qui s'intéressent d'abord à la santé, à l'éducation, à l'économie, enfin de manière générale. Alors bien évidemment, à la paix et à la recherche de la paix, et qui d'ailleurs, depuis les accords d'Oslo de 93, ça peut paraître étonnant, dans toutes les enquêtes d'opinion, sont d'accord pour la solution des deux États.
Oui.
Donc chacun reconnaît, grosso modo, je veux dire, une majorité relative au sein de chacune des deux sociétés, reconnaît qu'il y a un autre peuple et qu'il va bien falloir partager. C'est quand même intéressant. Et ça, on le dit pas souvent, mais pourquoi ? Et on peut pas en vouloir aux journalistes, parce que les journalistes parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors si, imaginez-vous, commencer un journal ou une émission en disant, bon ben finalement, pour l'essentiel, tout se passe quand même globalement assez bien au sein de ces deux sociétés depuis quelques mois ou quelques années. D'ailleurs, hier, beaucoup de gens ont embrassé leurs enfants qui partaient à l'école et qui... Et considère que finalement, les vacances de Pâques vont bien se passer. Si vous dites ça, enfin, c'est ridicule, les gens vont tourner le bouton, ils ne vont plus vous écouter.
Il est vrai qu'on peut mettre en lumière des exemples. Juste après la pause, je vous en donnerai un qui était très, très emblématique justement de cette coexistence, en tout cas de ce cheminement ensemble vers la paix, vers une réconciliation de Jeff. Ça va vous plaire juste après avec Serge Moati, Frédéric Ancel. Nous parlons d'Israël à l'occasion des élections législatives.
De la question qui est un tour d'Israël ce matin puisque les Israéliens votent aujourd'hui pour leur prochain Premier ministre, un scrutin qui sera très suivi compte tenu du rôle de ce pays dans l'équilibre géopolitique du Proche-Orient. Wendy Bouchard.
Absolument Julie, avec peut-être la tentation d'un vote sécuritaire. On verra si Benjamin Netanyahou repart pour un cinquième mandat. Eldorado économique, Israël qui est en passe de devenir la 17e puissance économique mondiale, pays en plein essor, 4 à 5% de croissance depuis 10 ans maintenant, chaque année. Pour revenir à ce que disait Jeff sur la nécessité que les médias fassent le tri et regardent aussi ce qui se passe en matière d'harmonie, de coexistence dans ce pays. Serge Moati, Frédéric Ancel. Je vais vous citer un exemple qui, moi, me parle. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est qu'il y a 2 ans, on est dans un contexte de violence, quand même, de regain de violence dans le secteur arabe. Un premier commissaire de police arabe musulman est nommé au poste de commissaire adjoint de la police israélienne. Ça a du sens, ça fait du bruit, c'est pas simplement de la com, ça a du sens aussi pour apaiser les tensions là-bas, Frédéric Ancel.
Oui, ça a du sens, comme ça a du sens d'ailleurs de rappeler que plusieurs ambassadeurs israéliens, ambassadeurs d'Israël, sont arabes. Sont arabes, d'ailleurs deux d'entre eux sont musulmans.
Oui.
Et de rappeler que le premier général d'aviation arabophone, alors en l'occurrence druze, a commencé à piloter son F-15 il y a quelques années. En même temps, est-ce que c'est révélateur ou emblématique de l'intégralité des éléments de situation? Non, bien évidemment. C'est-à-dire que des discriminations sociales, par exemple, il y en a, ou en tout cas elles sont ressenties comme telles, notamment par les Arabes de Galilée. Parce qu'il y a moins d'investissements publics, il y a moins d'investissements privés également dans un certain nombre de villages, parce qu'on considère qu'il y a moins de rentabilité. Bon. Il faut
mais
distinguer...
Mais ils votent comme les autres, hein, chacun. Les autres. Vote, ouais. Mais après, ils se sentent citoyens de seconde zone dans un certain nombre de politiques.
En tout cas, ils se sentent palestiniens d'Israël. Là, on parle bien des Arabes israéliens, des 20% de citoyens qui ne sont pas juifs, mais qui sont arabes, soit musulmans, soit chrétiens, soit druzes. Après, vous avez les Palestiniens. Mais ça, c'est autre chose. Et je pense que souvent, les gens confondent. Le conflit, en réalité, il concerne Israël d'une part, et les Palestiniens représentés par l'autorité palestinienne d'autre part, et accessoirement dans la bande de Gaza par le Hamas. Et là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus géopolitique. Mais si on parle de l'État d'Israël en soi, de la société israélienne elle-même, on a affaire à des citoyens qui sont égaux en droit.
Oui, et il y a une confusion aussi sur le sujet, Serge Moati. Il y a quelques jours, on parlait sur cette antenne de Bilal Hassani, qui représente la France pour l'Eurovision. Certains me disaient ici et là, mais ça va être terrible pour lui en Israël, j'espère qu'il a une grosse sécurité. Mais je dis, mais attendez, c'est probablement le pays où il sera le plus accepté, il a été acclamé d'ailleurs à Tel Aviv. C'est là où les médias peut-être déforment la réalité, sans connaître le terrain.
Je ne suis pas au courant de cette histoire qui m'importe pourtant, mais je ne savais pas. Mais ce que je trouve fou, quoi, c'est que regardez les lois qui ont été votées à l'été 2018, en Israël par la Knesset, l'Assemblée nationale. Bon, on a enlevé l'arabe comme langue officielle d'Israël.
Ah, ben qui était pourtant la deuxième langue.
Ben, jusqu'à nouvel ordre, oui, c'est ça. Bon, et on a dit aux colonies de peuplement qu'ils pouvaient enlever les voisins arabes autour d'eux, c'est quand même très, très important, parce qu'ils ne partageaient pas les idéaux, en fait, du peuple juif. Voyez. Et on a transformé le peuple, l'État des Juifs de Herzl, en un État juif. Et moi, mon sentiment, c'est que les Juifs, ont gagné sur les Israéliens. Ça paraît un peu bizarre comme phrase.
Je vois ce que vous voulez dire.
Mais vraiment, c'est-à-dire que la citoyenneté passe derrière maintenant la religion. Et d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs ce qui se passe pour les élections, là, puisque c'est aujourd'hui qu'on vote. Pour faire une majorité en Israël, il faut faire des trucs composites, vous savez, il faut faire des alliances de partis. Donc sur quoi Netanyahou cherche désespérément des alliés, c'est sur l'extrême droite religieuse. C'est-à-dire que vous avez affaire maintenant à un truc qui s'appelle Force Juive, à un truc qui s'appelle Nouvelle Droite, qui sont des partis extrêmes, extrême droite, où Dieu est avec eux tout le temps. Ils parlent au nom de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont l'équivalent du Hamas de l'autre côté, du côté palestinien. Et quand vous mettez Dieu à une table de négo, par exemple, pour parler, c'est mal barré. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà.
Non,
parce que moi j'ai rencontré les porte-parole des colons en Israël, la porte-parole des colons, qui s'appelle Daniela Weiss, qui me dit « Mais Dieu m'appelle, Dieu m'appelle sur mon téléphone. » Et il me dit « Il ne faut pas partir de Cisjordanie. » Ce qu'a fait d'ailleurs Netanyahu, en disant « On garde, on légitime l'annexion des colonies en Cisjordanie. » Et moi, elle m'a dit « Ça te fait rire ?» J'ai dit « Non, non, c'est bien d'avoir Dieu sur son portable. Je vais lui donner ton portable à toi. » Et depuis, j'attends désespérément. Tous les jours, je rentre chez moi, aucun coup de fil. Aucun coup de fil de Dieu. Et je ne vous parle pas en... Je vous parle en croyant. Non, mais c'est pas une blague.
Ce que vous dites derrière la légèreté est fort de sens, Serge Moati. Oui. Mais par exemple, la jeunesse. Comment la jeunesse réagit au constat que vient de faire Serge, et notamment à ces lois votées, là, en 2018.
C'est la jeunesse laquelle la jeunesse arabe, elle est furieuse. Furieuse.
Mais la jeunesse juive israélienne, elle n'est pas plus heureuse.
Elle n'est pas plus heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont allés à l'école ensemble, ils ont grandi ensemble.
Ils se connaissent.
Frédéric Ancel, cette génération-là peut-elle permettre de changer les consciences, justement, celles qui arrivent, avec une démographie plus importante d'ailleurs, plus galopante côté arabe que juif aujourd'hui?
Alors ça, précisément, je voulais évoquer la démographie, ça c'est terminé.
C'est terminé ?
Ah oui, depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs, dans l'ensemble du monde arabe, vous avez une transition démographique.
D'accord.
Et l'an dernier, pour la première fois, il y a eu croisement. C'est-à-dire qu'une femme juive israélienne, en moyenne, faisait 3 enfants, 3.1, et une femme arabe israélienne en faisait 3. Et donc ça, c'est terminé.
C'est intéressant parce qu'il y a une communication vraiment, alors une propagande sur le sujet en ce moment.
En tout cas, les chefs palestiniens considéraient que c'était un levier de pouvoir pendant très longtemps. Les Israéliens le craignaient beaucoup. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Mais attendez, pourquoi c'est terminé ? Parce que du côté juif, qui fait beaucoup d'enfants ?
Les religieux.
Mais bien sûr, non seulement les religieux, mais les ultra-orthodoxes, qui ont atteint un taux de fécondité qui dépasse 7, autrement dit, c'est le record du monde.
C'est Dieu qui m'a demandé de faire 7 enfants, si vous voulez que je fasse.
Donc, si vous voulez, quand Serge dit, quand on parle de la population ou du peuple, je voudrais citer Brecht. Brecht disait, on ne dissout pas le peuple. La population ne vote pas pour les partis de gauche, ne vote plus pour les travaillistes depuis un certain nombre d'années. Ouais. Alors, ça signifie bien quelque chose, mais y compris les laïcs. Netanyahou ne s'appuie pas que sur l'extrême droite. Le Likoud est un parti laïque à l'origine. Donc on est bien là sur un manque programmatique fondamental de la part de la gauche israélienne. Écoutez, dans une démocratie, le pouvoir appartient à celui qui veut bien le prendre.
Ça nous rappelle quelque chose, la France.
Ouais.
Gantz, là, le type Benny qui Gantz. Représente le centre droit là-bas, enfin, je sais pas quoi.
Le blanc.
Il dit je suis ni de droite ni de gauche. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Je suis en même temps. Ça vous rappelle quelque chose ? Bah oui. Macron, c'est une sorte de Macron, comme si Macron avait été chef d'état-major, vous voyez le genre, dans une vie antérieure. Mais honnêtement, il n'y a plus de programme de gauche, il n'y a plus de social-démocratie, alors que Israël a été fondé sur cette espèce de social-démocratie.
Voilà, alors
je suis nostalgique, je pense à l'avenir...
Une utopie que vous continuez à caresser.
Non, ce n'est pas une utopie. Je pense à l'avenir des enfants et des petits-enfants de là-bas, qu'ils soient palestiniens, arabes, d'Israël, juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez. Je pense à leur avenir et je n'ai pas le droit de me moquer de ça. J'ai pas le droit de me moquer de ça et j'ai pas le droit de passer pour un utopiste quand je parle de la paix. Et j'ai des exemples dans mon livre que je pourrais vous donner ça vous intéresse.
Bien sûr, et pour corroborer ceux de Daniel et de Paul, parce qu'ils nous écrivent, ils nous appellent avec beaucoup de témoignages positifs. Ils y croient aussi à cette coexistence.
Je suis
c'est bon.
Je suis pas rêveur.
Pas le seul.
Oui.
À tout de suite.
Ce mardi est un jour chômé en Israël pour permettre à 6 millions d'électeurs d'aller voter. Ce sont les 21e législatives depuis la création de l'État d'Israël en 48. Wendy Bouchard.
Et enfin, ma chère Julie, avec nos invités, Frédéric Ancel, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël, les défis d'une démocratie en guerre, aux éditions Autrement, avec Serge Moati, journaliste et auteur d'Il était une fois en Israël, aux éditions Fayard, un tour de la question et un tour d'Israël, de Tel Aviv au Negev, de Jérusalem en Galilée, avec Paul qui nous écrit une maison Alfort. Israël est l'un des pays les plus démocratiques dans le monde, dit-il. Les Arabes sont à des postes très importants, ce n'est pas le cas partout. Et de plus, quand un soldat palestinien est blessé, on le soigne comme un autre en Israël. On peut parler en effet de ce qui se passe dans les hôpitaux, où là encore, arabes israéliens et juifs israéliens travaillent ensemble.
Ça, c'est une certitude. Et sont soignés ensemble. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une certitude. Non, mais Israël est fondamentalement, une vraie démocratie, un État qui assure a priori l'essentiel de la subsistance et de la sécurité à l'ensemble de ses citoyens, notamment, je le répète et j'insiste, au regard de ce qui se passe dans l'ensemble du Moyen-Orient. Là où je rejoins Serge et où on peut développer une forme d'inquiétude, c'est que effectivement, ces dernières années, il y a eu une dérive d'un certain nombre de partis politiques israéliens, ou plus exactement d'une partie de l'électorat qui décide de voter, d'accorder leur suffrage à ces partis. Ces partis sont de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Il y a de plus en plus ultra-orthodoxes en Israël. Ça, c'est absolument incontestable. Et je pense que ce ne sont pas les conditions les plus favorables pour parvenir un jour à la paix. Cela dit, et je le dis d'un mot parce que je pense qu'on va y revenir, la paix n'est absolument pas une utopie. D'ailleurs, les accords d'Oslo avaient été signés et ils ne se sont pas totalement effondrés, contrairement à ce que disent certains pessimistes. Et j'ajoute un point très important. Il y a quelques semaines de ça, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment fêté, célébré une paix très importante, le 40e anniversaire de cette paix, à savoir la paix de Camp David entre Israël et l'Égypte. Aujourd'hui,
absolument.
Ça paraît évident, mais attendez, mais à l'époque, ça n'était absolument pas. L'Égypte est le pays arabe le plus nombreux et le plus peuplé et le plus puissant du Moyen-Orient.
Et aujourd'hui, Israël aide l'Égypte à lutter contre les djihadistes.
Exactement, et c'est une paix qui est très puissante, qui est pérenne et qui tient debout.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire aussi, Serge Moati, parce que j'ai pas mal de messages qui relèvent vos propos. Quand vous comparez, nous dit une auditrice, Véronique, les partis religieux israéliens d'extrême droite au Hamas, c'est quand même pas comparable, les religieux n'envoient pas de roquettes.
Certes, Dieu merci. si j'ose dire.
Oui, parce que là, on a eu une salve de roquettes tirée depuis la bande de Gaza par
Hamas. Vous savez, il y a roquettes et roquettes. Mm. Hein. Bien sûr que non, ils ne tirent pas des roquettes. Enfin, c'est absurde, j'ai jamais dit ça. Mais ils mettent Dieu au centre de leur négo. Ils mettent Dieu tout le temps, chaque bout de phrase. C'est ça que je veux dire. Et quand vous parlez au nom de Dieu, c'est une catastrophe. C'est ça que je veux dire. J'ai jamais parlé de roquettes, ou alors ça m'a échappé. C'est un lapsus.
Bien sûr, d'accord.
Je voulais parler peut-être de raquettes, je ne sais pas. Mais comme tirait Bibi Netanyahou.
Oui. En tout cas, on a quand même des attaques encore, et un côté très belliqueux de la part notamment de la bande de Gaza, où le chef du Hamas est implanté, où on a une résistance aux colons israélo-américains.
Il y a quoi, non?
Oui, non, mais je vous pose la question, je ne connais pas la situation à Gaza.
Les choses sont extrêmement claires. L'autorité palestinienne, créée en 1993-1994 dans la foulée des accords d'Oslo, est le partenaire légal et légitime de l'État d'Israël, reconnu par toute la communauté internationale.
D'accord.
Son président est Mahmoud Abbas.
D'accord.
De l'autre côté, dans la bande de Gaza, vous avez le Hamas, donc la branche palestinienne des frères musulmans, qui est un mouvement extrémiste, un mouvement islamiste, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, qui se trouve sur la liste noire des organisations terroristes. Pour la plupart des États, et notamment des États démocratiques dans le monde.
Et qui est un fléau pour les deux populations.
Qui est un fléau, exactement, ouais. Et vous avez raison de dire, pour les deux populations, le Hamas joue toujours la politique du pire.
Thierry est avec nous, au 39-21. Bonjour Thierry.
Bonjour,
vous voulez réagir aux propos que vous entendez à la fois de Serge Moati et de Frédéric Ancel sur un pays que vous connaissez peut-être, Thierry, je ne sais pas.
Alors, que je connais, moi j'ai mes parents qui sont partis vivre en Israël.
Ah, ça veut dire qu'ils ont fait leur alia, qui ont fait leur alia ou qui sont allés vivre...
Ils ont fait leur alia il y a une vingtaine d'années.
D'accord.
Voilà, moi je suis toujours en France et je me sens très bien ici. D'ailleurs, je suis très triste quand je vois des gens qui partent de France pour aller en Israël. Parce qu'ils partent pour des raisons qui m'attristent, parce qu'ils se sentent pas, ils se sentent un petit peu en danger ici et ça m'attriste beaucoup. Mais ce que je voulais intervenir parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire, un de vos intervenants dire, c'était au téléphone,
oui.
Dire qu'il y avait, pas que des gens qui voulaient tuer des Palestiniens en Israël. Ça m'a un petit peu fait bondir parce que moi j'y vais assez souvent. Je connais pas de gens qui veulent tuer des Palestiniens en Israël. Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, vous venez d'en parler, il y a un problème de comment on va dire, avec qui on parle, avec les Palestiniens. Je pense que la situation aujourd'hui, notamment avec le Hamas, avec les roquettes qui tombent, font que des personnes qui auraient pu voter à gauche ne se sentent pas en sécurité et vont aller voter vers la droite.
Voilà.
Ils vont voter pour Netanyahou parce qu'ils ont un problème. Ils se sentent en danger et je pense que la gauche est peut-être, il la trouve trop faible pour discuter avec des gens qui envoient des roquettes.
Voilà, d'où la tentation du vote sécuritaire Frédéric Ancel qui existe pour ces élections aujourd'hui.
Bien sûr, un vote qui existe et on le disait tout à l'heure. Benny Gantz, s'il a une chance d'être Premier ministre, une chance d'ailleurs faible, mais s'il a une chance de devenir Premier ministre, c'est très concrètement, très précisément parce qu'il vient de sortir d'un poste très prestigieux en Israël, qui est celui de chef d'état-major. Mais l'épaisseur programmatique de Benny Gantz, on la cherche, mais les Israéliens qui vont voter pour lui sont éventuellement des gens de droite qui en ont assez de Netanyahou, des centristes, des gens de gauche qui ne veulent pas éparpiller leur voix ou qui considèrent le Parti travailliste comme pas suffisamment crédible à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il peut être Premier ministre.
On fait le tour de la question encore quelques minutes. Merci de votre appel, Thierry. Je terminerai par Lucienne, un témoignage à suivre pour éclairer aussi les propos de Serge Moati de Frédéric Ancel. Si vous avez visité le pays, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi. Israël en question, quelques minutes encore.
Désormais, dernière partie du tour de la question sur les élections législatives en Israël, aujourd'hui même. Des élections à haute tension, à enjeu planétaire en plus.
Absolument. 6 millions d'électeurs pour 8 millions d'habitants en Israël. Nous sommes avec Frédéric Ancel et Serge Moati pour nous éclairer encore sur à la fois la richesse de ce pays, sa vigueur, l'équilibre fondamental dans un Proche-Orient tourmenté. Frédéric Ancel, un équilibre essentiel. Il n'a cessé, ce pays, de faire tampon et de faire aussi sa part dans le maintien de la paix aussi et de la guerre à une époque.
Oui, c'est un pays qui pèse énormément et j'allais dire de plus en plus par un faux paradoxe. De plus en plus, pourquoi ? Parce que Israël est monté en puissance sur le plan donc économique, technologique, même démographique, militaire, diplomatique. C'est absolument évident, tout le monde le reconnaît, même ses adversaires. Et pourquoi je vous dis que c'est un faux paradoxe ? C'est-à-dire qu'Israël n'est pas intervenu lors des printemps arabes de 2010, 2011, 2012.
Oui.
Israël n'est pas intervenu pendant la guerre civile et la guerre cruelle en Syrie, qui a fait en 7 ans 5 fois plus de tués qu'en 70 ans de conflits israélo-arabes, j'aimerais quand même le rappeler. Israël n'est pas intervenu. Israël n'intervient que très occasionnellement aujourd'hui dans la région. Israël n'a jamais frappé directement l'Iran. D'ailleurs, c'est vrai, l'inverse est vrai aussi. Et par conséquent, on a finalement une rhétorique de combat, une rhétorique de guerre qui parfois prend le pas sur l'effectivité de l'interventionnisme israélien. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est, si vous voulez, c'est la puissance, elle est gérée de manière, je dirais, relativement pondérée et rationnelle au regard de ce qu'Israël pourrait faire.
Et là, l'arme nucléaire, Israël, enfin pas officiellement, mais une puissance nucléaire.
Pas officiellement. En réalité, Israël dispose sans aucun doute d'une centaine d'engins.
C'est un secret.
Oui, évidemment. Lucienne est avec nous au 3921 et vous revenez d'Israël. Bonjour Lucienne.
Bonjour, bonjour Wendy, je suis très heureuse de vous entendre.
Eh bien, ravie également d'entendre votre témoignage, car vous avez visité ce pays il y a quelques semaines, je crois.
Eh bien oui, il y a tout juste un mois que nous sommes revenus avec mon mari.
Oui.
Et oui, avec peut-être pas trop d'a priori pour nous, de notre côté, mais des a priori par rapport à des gens qui nous disaient « Vous êtes un peu fou d'aller là-bas, vous allez vous faire tuer, etc. » Et nous, on a rencontré des gens adorables. On ne fait pas de politique. des gens adorables. Et ce matin, ça fait quand même du bien de vous entendre dire les choses, dire du bien. J'aime bien Frédéric Ancel aussi, depuis longtemps. Et voilà, bah, j'ai eu envie de prendre mon téléphone et de vous dire qu'on avait été très très bien reçus et que...
Voilà, mais c'est bon de vous entendre aussi parler au-delà des clichés et des caricatures qu'à chaque fois que vous allez dans le pays, vous entendez aussi Frédéric Ancel et Serge Moati. Évidemment, Serge, je ne sais pas combien de fois vous êtes allé en Israël.
Ça se compte plus.
Ça se compte plus, mais évidemment, vous êtes allé au-delà des préjugés aussi comme journaliste et avec l'œil du journaliste sur le fait je ne suis pas en sécurité, je ne sais pas où mais je mets les pieds aujourd'hui, je vis dans un pays en guerre. Vous avez tout filmé.
Oui, bien sûr.
Oui. Et la dernière fois que vous êtes allé en Israël ?
Là, c'était il y a 6 mois, même pas, pour écrire ce bouquin et pour faire un film.
Oui.
Donc oui, bien sûr.
Un film que vous allez livrer au public ?
Qui est déjà livré, je signale, et qui a même été rediffusé.
Non, mais que j'aurais loupé, donc ?
Ouais, c'est affreux, qui s'appelle, presque comme le bouquin, « Il était une fois Israël ».
Eh bien, j'espère qu'on peut le retrouver.
Et alors, dans ce bouquin-là, dans ce film-là, pardon, vous auriez entendu, si vous aviez été attentive et présente devant votre poste, un vieux monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelle Noah Kliger, que tu dois connaître, toi. Rescapé de l'Exodus et d'Auschwitz.
Oui.
Vous vous rendez compte ? Doublement rescapé comme ça. Lui, il est de droite classique en Israël. Il dit, ça peut vous intéresser, il dit, voilà, je suis pessimiste et je ne l'étais pas à Auschwitz et je ne l'étais pas sur l'Exodus. Oui, je suis pessimiste parce que je ne vois pas chez les Palestiniens naître un mouvement sérieux qui oseraient négocier avec nous et stopper leur terrorisme comme leurs attaques incessantes. Vous voyez, il représente une opinion de sécuritaire moyenne en Israël, vous voyez, enfin, de droite classique. Ça vous intresse que je continue ?
Allez-y,
non,
quelques secondes.
Parce que,
non, parce qu'on termine Daniela, dans 30 secondes, mais je pourrais rester longtemps avec vous.
Non. Daniela, la leader du bloc de la foi, c'est-à-dire la leader des colons, en Cisjordanie, elle dit « Le peuple israélien était prêt à n'importe quoi pour prendre cette terre et la couper en deux. » Elle parle du plan de partage de 1947 que les Arabes ont rejeté, alors que les Israéliens sionistes de l'époque acceptaient le plan de partage. Il ne faut jamais oublier ça. Hein ? Et les Arabes ont dit « Non, on ne veut pas partager quoi que ce soit. »
Bon.
Mais les Arabes ont refusé. Ils ne voulaient pas. Elle continue. Hein. « Je pense que politiquement parlant, il n'y a pas quelqu'un en face qui est véritablement prêt ou qui veut la paix. Moi, je suis contre le partage d'un territoire, car cette terre nous a été donnée par Dieu. » Voilà. Donc ça, c'est la position des partis de droite religieux, enfin orthodoxes. Bon. Tzia Walden, mon amie, la fille de Shimon Peres, que j'aime beaucoup, comme j'aimais beaucoup son père, qui était un ami, elle dit « Il y a des gens qui divisent Israël et la Palestine, moi pas, je crois pas, je fais une autre division. Il y a des gens des deux côtés qui veulent vivre ensemble, des modérés, qui cherchent à créer un avenir commun. Et d'autre part, il y a hélas des fanatiques qui ne veulent et n'acceptent aucun compromis. Là, et la vraie division. Selon elle, il faut tendre la main aux Palestiniens parce qu'ils sont en situation de force, les Israéliens, pour le faire. Bon. Mon ami David, je passe tout de suite à Danny Shek, qui était un ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est vraiment comme mon frère. Enfin, bon. Il dit la paix, oui, j'y crois, je veux y croire. Il y a tant de moments historiques qui sont arrivés sans que personne ne les voie venir. C'est comme si les astres s'alignaient d'une certaine manière. Des personnes qui devaient se rencontrer se rencontrent vite et bien, bien et juste. Alors tout s'éclaircit et tout s'arrange. Je crois profondément que notre moment historique va venir. On a eu un moment magique au moment de la création de l'État. Ce fut immense dans la vie des Juifs. 2000 ans après la dernière indépendance juive, vous vous rendez compte, 2000 ans après, la paix sera un autre moment magique pour Israël.
Eh bien voilà, trois citations pour terminer avec trois espoirs, Frédéric Ancel, et le mot de conclusion pour vous qui donnez aussi des conférences régulièrement dans ce pays. Merci Serge Moati. Au cœur de ces élections, beaucoup de choses peuvent se jouer. A priori, il sera réélu, Benjamin Netanyahou, selon les derniers sondages.
En tout cas, il formera vraisemblablement la prochaine coalition. J'aimerais simplement rappeler que la paix dont on parlait tout à l'heure avec l'Égypte, signée en 78, a été signée par un nationaliste. Je rappelle que le retrait intégral de la bande de Gaza a été effectué par un autre nationaliste, qui était Sharon. Le premier, c'était Begin, le deuxième, c'était Sharon. Autrement dit, nationaliste...
Je rappelle Rabin et Pérez, moi.
Bien sûr. Et Rabin et Pérez ont fait, bien sûr, la paix. Mais Rabin, à l'époque des accords d'Oslo, est considéré, il est certes travailliste, mais considéré comme un faucon. Autrement dit, la paix a très court terme, c'est compliqué, les conditions manifestement ne sont pas réunies, mais qui a parlé du court terme ? C'est-à-dire qu'à moyen et long terme, je suis extrêmement optimiste, car cela s'est déjà produit, et par conséquent, ça se produira. On a au sein des deux populations, c'est ce que je disais tout à l'heure, très objectivement, une authentique volonté de dépasser ce que parfois des leaders politiques nationaliste ou instrumentalisant effectivement le religieux au profit du politique, comme le disait Serge, décide de faire. Donc tant que les populations souhaitent authentiquement la paix, ce qui est le cas, et je les rencontre souvent, les Israéliens comme les Palestiniens, eh bien évidemment, la perspective est à la paix.
Et la meilleure chose pour vous rendre compte aussi, c'est d'aller visiter ce pays plein de richesses, on vous encourage. Ouais. Merci beaucoup. Pardon. Serge Moati, Il était une fois en Israël, aux éditions Fayard, c'est l'ouvrage que vous devez lire, avec l'Atlas géopolitique de Frédéric Ancel. Merci beaucoup messieurs.
Merci à vous.
À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.